Merci de nous rejoindre. Le journal Sébastien Legenis, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, haro sur le Black Friday. Le gouvernement multiplie les sorties contre cette journée de soldes frénétiques. Nouvelle attaque, cette campagne du ministère de la Transition écologique pour une consommation plus responsable afin de rallonger la durée de vie des objets. Reportage à suivre. Dans ce journal également, la crise qui n'en finit pas au Liban et des manifestations qui se durcissent depuis quelques jours. Nous serons à Beyrouth. Une audience très attendue au procès du meurtre d'Élodie Kulik avec l'écoute d'un enregistrement déterminant, 26 secondes glaçantes au cœur de l'enquête. Cette enquête également sur les femmes enceintes très peu vaccinées contre la grippe et puis le MMA, cet art martial très violent, bientôt reconnu en France. Reportage dans un club en fin de journal.
Au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, aujourd'hui le président du groupe Les Républicains au Sénat, j'ai nommé Bruno Retailleau.
France Inter.
Et l'on commence, Sébastien, avec cette question existentielle. Faut-il interdire le Black Friday ?
Le Black Friday, ce concept venu tout droit des États-Unis, ce vendredi un mois avant Noël, synonyme de fièvre acheteuse débridée. Eh bien, plusieurs hommes et femmes politiques français en font leur cible depuis le début de la semaine, avec d'abord cet amendement des députés afin de limiter les campagnes de promotion agressive. Il sera examiné le 9 décembre prochain. Le gouvernement, lui, n'est pas en reste non plus après la mise en garde de la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne contre cette frénésie de consommation. C'est au tour maintenant de sa secrétaire d'État Brune Poirson qui lance une campagne de sensibilisation sur Internet et à la télé pour inciter les Français à consommer de manière plus durable. Sandy Dauphin.
Que faire d'un téléphone dont l'écran est cassé ?
Surtout, ne pas le jeter pour en racheter un neuf. C'est le message de cette campagne baptisée « Nos objets ont plein d'avenir ».
Oui, il y a bien mieux à faire que de racheter un téléphone neuf.
La secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, veut inciter à consommer autrement.
Utiliser des objets différemment, en les louant, les réparant, en les échangeant, en achetant aussi de seconde main. Bref, changer ce rapport à la consommation. Et l'objectif, c'est de lutter contre cette double arnaque pour la planète, pour le porte-monnaie des Français, qu'est le Black Friday, un vendredi noir.
L'Agence de l'environnement, l'ADEME, a calculé les bénéfices de rallonger la durée de vie de plusieurs objets du quotidien. Pierre Galliot, chef du service consommation.
En conservant un produit, on évite la fabrication d'un nouveau produit. Or, ce nouveau produit va émettre énormément de gaz à effet de serre, va consommer beaucoup de matière. Si on prend par exemple l'exemple d'un téléviseur qui a une durée de vie moyenne de 8 ans, si on le prolonge juste d'un an, grâce par exemple à un bon entretien, on gagne l'équivalent de 50 kg de CO2. Si on étendait ça à l'ensemble des téléviseurs français, on éviterait les émissions de la ville de Lyon.
Et d'après l'ADEME, pour fabriquer une télévision neuve de 10 kg, il faut en moyenne mobiliser 3 tonnes de matière.
Sandy Dauphin a noté ses actions militantes prévues vendredi, un Black Friday organisé par des groupes écologistes comme Extinction Rébellion qui compte dénoncer ce qu'ils appellent la grande braderie de la planète. En face, les commerçants eux, le défendent au contraire. Cette journée clé, disent-ils, pour l'économie, surtout un an après les gilets jaunes.
Il est 7h33, des cérémonies après la mort des 13 militaires français lundi soir au Mali.
Mort dans la collision de deux hélicoptères qui poursuivaient au sol des djihadistes. Les deux boîtes noires ont été récupérées, nous dit ce matin le porte-parole de l'armée. Après les hommages rendus hier soir dans chacun de leurs régiments, une cérémonie nationale présidée par le président Macron aura lieu aux Invalides dans les prochains jours, a priori vendredi ou lundi. 13 décès, le plus lourd bilan humain depuis la guerre au Liban depuis près de 40 ans. Le Liban, justement, où les manifestations continuent de plus en plus violentes. 40 jours au total de contestations. Les Libanais qui protestent contre la corruption des partis au pouvoir, des partis qui, eux, tentent de détourner les revendications sociales des citoyens et d'attiser les conflits confessionnels dans ce pays très fracturé. Le reportage d'Aurélien Colli.
Rodéo nocturne et pulsions sectaires, résume un journal libanais, après des raids de sympathisants des deux grands partis chiites, Hamas et Hezbollah, contre plusieurs QG de la contestation. À Tyr au sud, l'armée a tiré en l'air pour reprendre le contrôle. Même scénario à Beyrouth dimanche soir, devant Nazi, 40 ans, architecte.
Qu'ils viennent, qu'ils cassent, on reconstruit, c'est de la tôle. Et nos demandes sont bien plus forts qu'une tente en tôle ou en bois ou en plastique.
Au QG de Beyrouth, les tentes saccagées ont déjà été remplacées, mais la capitale a des poussées de fièvre tous les soirs dans différents quartiers. Un climat de tension alimenté par les vieux partis confessionnels de tous bords, selon Nazi, pour reprendre la main sur une contestation qui les a dépassés et demande leur départ.
Les deux camps du pouvoir ils sont les responsables de ce genre d'affrontement. On comprend ce jeu, on ne veut pas du sang, on ne veut pas des bastons, on ne veut pas de tout ça.
Le piège confessionnel que les contestataires libanais veulent à tout prix éviter, eux qui attendent depuis 3 semaines un gouvernement technique, apolitique, pour éviter une faillite à leur pays. Ces violences, c'est une tentative de réduire le mouvement à un affrontement sectaire, à des divisions religieuses, communautaires, alors qu'elles sont sociales, explique aussi Mohamed, mobilisé depuis le début de la contestation. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
On revient en France avec Adèle Haenel qui engage finalement le combat judiciaire. L'actrice a été auditionnée hier pendant plus de 6 heures dans le cadre de l'enquête sur des attouchements qu'elle dit avoir subis quand elle avait entre 12 et 15 ans. Et c'est donc au cours de cette audition qu'elle a décidé de porter plainte contre celui qu'elle accuse, le réalisateur Christophe Ruggia. L'actualité judiciaire encore et cette audience très attendue aujourd'hui au procès du meurtre d'Élodie Kulik. Une audience consacrée à l'enregistrement de l'appel aux pompiers passé par la victime juste avant sa mort en 2002. C'est notamment sur la foi de cette bande-son que l'accusé Willy Bardon est jugé aux assises pour le viol et le meurtre de la jeune femme. 5 de ses proches disent avoir reconnu sa voix. Corinne Audouin.
Pour la première fois, cet enregistrement téléphonique va être diffusé au cours d'une audience publique. Tous ceux qui l'ont entendu savent à quel point c'est une épreuve. Didier Seban est l'avocat du père d'Élodie, Jackie Kulik.
Oui, c'est une bande très difficile à écouter parce que c'est le cri d'une femme qui va mourir. Évidemment, c'est insupportable. Au départ, d'ailleurs, on n'entend que ça. Il faut plusieurs écoutes parce qu'à la première écoute, on est tellement sidéré qu'on n'entend pas le reste. Et puis après, on reconnaît des voix, on entend quelque chose, on entend un accent, on entend une manière de parler. Beaucoup de témoins dans cette affaire vont reconnaître Willy Bardon.
Les jurés et les parties au procès seront équipés de casques pour réécouter ces voix dans des versions successives, nettoyées, améliorées. Mais vu la mauvaise qualité de la bande, difficile d'avoir une certitude, explique l'avocat de Willy Bardon, maître Stéphane Dacot.
On peut d'abord attendre de la part des experts qui vont déposer des éléments techniques et objectifs qui viendront nous dire si oui ou non il est possible, compte tenu de la qualité de la bande et de sa durée, d'identifier un individu. Si les experts viennent nous dire que c'est pas possible d'eux, ça posera quand même une vraie difficulté pour l'accusation.
En garde à vue, Willy Bardon avait dit que la voix sur la bande ressemblait à la sienne, tout en niant absolument avoir participé au crime. Amiens, Corinne Audouin, France Inter.
Du nouveau sur le scandale du meurtre de Daphné Caruana, cette journaliste tuée dans un attentat sur l'île de Malte il y a 2 ans. 3 hauts responsables maltais ont quitté leurs fonctions hier, inquiétés par les derniers développements de l'enquête. Le chef de cabinet du Premier ministre et le ministre du Tourisme ont démissionné. Quant au ministre de l'Économie, Chris Cardona, lui, il a pour sa part décidé de se mettre en réserve pendant toute la durée des investigations en cours.
Il est 7h38, les femmes enceintes, Sébastien, seraient insuffisamment vaccinées contre la grippe.
C'est ce que constate en effet une étude à paraître de l'INSERM, l'Institut de Recherche Médicale, qui chiffre à 7,4% seulement le nombre de femmes enceintes vaccinées. Un vaccin contre la grippe pourtant recommandé, il permet d'éviter des complications pulmonaires pour la mère et des risques vitaux pour le bébé. 2 explications à ce mauvais taux de couverture, Véronique Julia, la défiance face au vaccin et peu de prescriptions médicales.
L'étude a porté sur près de 12 000 femmes enceintes ayant accouché au mois de mars. Le mois de mars a son importance car ça veut dire qu'elles ont été enceintes pendant la période automne-hiver qui couvre la vaccination et l'épidémie. Premier enseignement, la vaccination n'a été proposée qu'à 25% de ces femmes et ce sont les généralistes plus que les obstétriciens ou les sages-femmes qui la proposent. Béatrice Blondel est chercheuse à l'INSERM, auteur de l'étude.
Malheureusement, les généralistes sont rarement la personne référence pour le suivi prénatal. Ça concerne 10% des femmes. Donc, c'est beaucoup de gynécologues obstétriciens qu'il faudrait convaincre.
Deuxième enseignement, quand on leur propose la vaccination, 70% des femmes enceintes la refusent. Une défiance vis-à-vis du vaccin, mais aussi plus globalement vis-à-vis des médicaments.
On leur a dit que tout ce qui est produit pharmaceutique est dangereux, peut avoir des effets sur leur grossesse. Et donc, je pense qu'elles ont aussi cette culture-là de précaution. Donc, il y a un travail de sensibilisation des femmes.
Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, où le vaccin est également recommandé pour les femmes enceintes, le taux de couverture vaccinale est supérieur à 40%. Le vaccin contre la grippe n'est pas systématiquement efficace. Il évite malgré tout 50% des cas de grippe. Il faut savoir aussi que le vaccin de la mère protège le bébé pendant les premiers mois de sa vie.
Véronique Julia, ils montent à Paris pour faire entendre leur colère. Des centaines d'agriculteurs manifestent depuis ce matin au tracteur. mobile, tracteur pour dénoncer pêle-mêle l'agribashing, la pression de la grande distribution sur les prix ou encore les accords commerciaux avec le Canada. Résultat, plusieurs opérations de blocage prévues dans la capitale mais aussi à Lyon. On y revient avec Dominique Seux, juste après ce journal.
Il est 7h40, on termine avec une double clé de bras.
Une clé à la mode MMA, cette art martial jusqu'ici interdit en France et qui va bientôt être reconnue afin d'éviter les combats clandestins. Le MMA, c'est un sport de combat importé là aussi des États-Unis comme le Black Friday, un mélange de boxe et de jujitsu pratiqué dans une cage où presque tous les coups sont permis. En attendant une reconnaissance officielle, les fans de MMA n'ont pas attendu pour fonder leur club, exemple à Bordeaux dans l'un des plus anciens de France, Guillaume Batin.
Ils sont 25 élèves ce soir à se retrouver dans une zone industrielle des quartiers nord de Bordeaux. Les murs du dojo sont recouverts de trophées, ceux d'Emmanuel Fernandez, champion du monde de MMA et fondateur de l'Académie Pythagore dans les années 2000.
Ok, on s'assoit.
La plupart des élèves ont de 20 à 40 ans, plutôt musclés, mais certains sont plus jeunes et plus frêles.
Fabio, je dois faire 1m70, 52 kilos, 16 ans. Moi, je suis vraiment petit et maigre et pourtant, ce qui compte, c'est la technique plus que la force brute.
Cédric a 18 ans, plus grand, plus musclé, dégoûté du foot, il s'est tourné vers le MMA.
J'ai voulu commencer le MMA parce que j'en avais vu à la télé, mais je trouvais ça un peu violent. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer, j'ai trouvé que c'était pas du tout que de la violence. Maintenant, mon rêve, c'est de rentrer dans la cage.
La cage, une arène où tous les coups ne sont plus permis comme avant, Emmanuel Fernandez.
On a fait une cage parce que dans le MMA, il y a la partie lutte. Si on fait ça, par exemple, sur un ring, les gens passent au-dessus des cordes. Et il y a déjà eu de nombreux blessés. Encore une fois, c'est pour protéger les combattants.
Allez, on fait des rounds de 3 minutes.
Mi-décembre, le MMA rejoindra une fédération sportive déjà existante, probablement celle de la lutte, et les premiers combats officiels seront organisés en début d'année.
Voilà, la reconnaissance du MMA en France, un reportage en longueur avec plus de cris, plus de crochets du droit, c'est pour vous Nicolas, c'est à retrouver sur franceinter.fr.
Merci Sébastien Legénie.